Europe 1.
Europe 1.
Au cœur de l'histoire.
Et tout de suite sur Europe 1, on retrouve Fabrice Dalméda pour un voyage au cœur de l'histoire. Il nous raconte ce soir l'histoire de Tibérius et Caius, les frères Gracques. Ce récit en deux parties, Fabrice Dalméda nous entraîne au cœur d'un conflit social et politique qui a bouleversé l'équilibre de la République romaine. Dans le premier épisode, nous verrons si Tibérius parvient à mettre en œuvre ses grandes réformes. Son défi est d'autant plus difficile à relever qu'il risquerait de déchirer sa famille, dont une partie soutient l'opposition. Plongez tout de suite dans cette révolution antique avec notre spécialiste histoire sur Europe 1.
Europe 1.
Au cœur de l'histoire.
Le discours du président, c'était pas suffisant. Nous, ce qu'on voudrait qu'il passe, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Changer le système et que ce soit vraiment le peuple qui décide de ce qui doit passer ou pas. Moi, ça fait des années que j'attends que le peuple commence à gronder. Et là, c'est vraiment le cas. Ah, il faut pas lâcher.
Depuis plusieurs semaines, le mouvement des Gilets jaunes secoue la société française. Il montre l'existence d'une crise économique, politique et sociale, qui n'est pas sans rappeler d'autres grands moments de l'histoire, et notamment la situation que Rome, la République romaine, a vécue entre 133 et 121 avant Jésus-Christ. À l'époque, deux frères, Tibérius Gracchus puis Caius Gracchus, deux tribuns de la plèbe, ont entamé une profonde révolution dans les institutions. Et on commence avec Tibérius Gracchus, cet ancien combattant qui avait voulu faire une réforme agraire à Rome et restituer l'idéal du soldat citoyen romain. Au moment où commence ce récit, Rome, ou plutôt la République romaine, est à l'apogée de sa gloire. Elle vient d'écraser la cité concurrente de Carthage. Les légions romaines ont envahi la Grèce et se précipitent sur l'ensemble du pourtour méditerranéen. Cela change considérablement l'équilibre de cette société et met en scène un certain nombre de contradictions. C'est dans ce contexte que se réunit à Rome, comme régulièrement, l'assemblée des comices tributes. Les comices tributes, c'est l'assemblée du peuple romain, celle qui est censée élire les magistrats. Et dans cette assemblée, parfois, on demande aux plus puissants, aux membres des familles aristocratiques, ce qu'on appelle les patriciens, les membres du Sénat, on leur demande de se retirer et restent uniquement présents les membres du peuple, les membres de ce qu'on appelle vulgairement à Rome la plèbe. Et ce sont ces gens-là qui, en 134 avant notre ère, sont organisés en tribus. Il y en a 35, 4 pour la ville de Rome elle-même et 31 pour ses environs et la campagne. Et donc, ces 35 tribus, ce jour-là, confirme et accepte l'élection à un poste, celui de tribun de la plèbe, d'un personnage qui s'appelle Tibérius Sempronius Gracchus. Tibérius Gracchus n'est pas n'importe qui. C'est un ancien combattant, il a été officier dans l'armée romaine, il est lui-même le fils d'un ancien général, d'un ancien consul, qui portait exactement le même nom que lui, Tibérius Sempronius Gracchus. C'est donc une personnalité visible qui appartiendrait plutôt à l'aristocratie et qui a demandé à exercer, à occuper ce poste de tribun de la plèbe. Un tribun de la plèbe, c'est un poste qui a été créé au 6e siècle avant Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que la plèbe, à cette époque-là, en avait assez des abus et d'être exploité par les patriciens, par les membres du Sénat, par l'aristocratie romaine. Et donc, ils avaient décidé de se séparer du Sénat et en compensation, pour qu'ils reviennent dans Rome, on leur avait donné un magistrat pour s'occuper d'eux, un homme, le tribun de la plèbe. Et ce tribun de la plèbe, il avait une inviolabilité, on ne pouvait pas le toucher, il était sacré et il devait défendre les droits des plébéiens, les droits des gens du peuple. C'était donc une espèce de juge et en même temps quelqu'un qui surveillait les lois et qui pouvait mettre son veto quand il pensait qu'une loi n'était pas bonne pour le peuple. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de correspondances ou beaucoup de discussions par rapport aux institutions qu'on a aujourd'hui avec les défenseurs des droits, par exemple. Bon. Et Tibérius Gracchus, il veut jouer ce rôle. Pourquoi ? Parce que d'abord, parmi les gens qui l'ont élu, parmi ceux qui étaient présents dans les tribus, il y avait d'anciens soldats à lui. Il y avait d'anciens vétérans qui comptaient sur sa défense, sur sa politique, pour pouvoir retrouver une place au soleil, pour pouvoir se retrouver mieux dans cette Rome parfaitement conquérante et si grande. Grande, conquérante, qui donc avait obtenu de nouvelles terres. Les nouvelles terres conquises par la cité de Rome ont été placées au sein de ce qu'on pourrait appeler un grand office, qu'on appelait les terres publiques. Et les patriciens, les aristocrates, se sont emparés des gigantesques territoires et en ont fait leur propriété personnelle, y installant des esclaves qui cultivaient les terres à leur place et qui leur permettaient d'avoir de gros bénéfices. Mais de grandes propriétés, cultivées par des esclaves, ben tout cela avait fait chuter les prix. Et les pauvres soldats romains, les pauvres petits paysans romains, quand ils allaient vendre leurs marchandises sur le marché, ils étaient ruinés. Et donc leurs terres, tout d'un coup, ne valaient plus rien. Ils étaient obligés de prendre des hypothèques, de les revendre. Et donc de se retrouver de plus en plus au sein de cette plèbe dans la cité de Rome, de venir s'agglutiner à toute cette foule de Rome qui vivait simplement de quoi ? De l'aumône publique. Pour quelqu'un comme Tiberius Gracchus, qui a vu ces hommes aller au combat, qui a vu ce que signifiait être un légionnaire romain, il y a quelque chose de fondamental qui est en train de se briser dans Rome. Il est temps de le restaurer, il est temps d'entreprendre une grande réforme agraire. Eh bien, un an plus tard, alors qu'il est en poste comme tribun, il va proposer cette réforme, écoutez-le la défendre, auprès des comices.
Les bêtes sauvages, elles-mêmes, qui errent en Italie, ont leur trou et leur tanière où se réfugier. Et ceux qui combattent pour l'Italie et lui sacrifient leur vie n'ont en propriété que l'air qu'ils respirent et la lumière. Sans maison, ni foyer, ils errent, accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants. Ils leur mentent, en vérité, les généraux qui haranguent les soldats dans les combats, lorsqu'ils leur disent qu'ils combattent l'ennemi pour défendre les tombeaux de leurs ancêtres et leurs pénates. Car la foule du peuple romain ne possède plus ni tombeau paternel, ni foyer. C'est pour le luxe d'autrui, pour sa richesse qu'ils combattent et meurent. Et eux, que l'on appelle les maîtres du monde, ils ne possèdent même pas une motte de terre.
Dans un court instant, la suite de ce rendez-vous au cœur de l'histoire des frères Grac. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Au cœur de l'histoire.
Nous sommes au cœur de l'histoire avec Fabrice Dalméda qui nous raconte tout de suite ce qui scandalise Tiberius Gracchus. Vous êtes bien sur Europe 1.
Ce qui scandalise Tiberius Gracchus, c'est que des soldats qui ont combattu pour la grandeur de Rome, qui ont permis à la cité de conquérir de vastes territoires, se retrouvent du jour au lendemain sans terre. Que ces soldats, qui, dans la philosophie de la cité romaine, devaient être ancrés à une terre, devaient recevoir à la fin de leur service un lopin de terre, que ces soldats ne puissent avoir de quoi vivre, est pour lui un scandale. Et donc, la réforme agraire qu'il veut entreprendre est toute simple. Il s'agit de restaurer l'idéal du soldat citoyen paysan. C'est tout simple. On doit pouvoir, comme les ancêtres de Rome le faisaient, être un citoyen, avoir le droit de vote parce qu'on possède sa terre de laquelle on vit. Et grâce à cela, on peut se rendre dans les assemblées. On peut avoir, j'allais dire, le nécessaire, mais aussi le superflu qui permet une vraie activité politique. Mais évidemment, ce que l'on va donner prochainement aux soldats doit être retiré à ceux qui se l'étaient indûment approprié. Les grands propriétaires terriens, les sénateurs, les nobles. Et donc à partir de ce moment-là, va commencer une lutte sourde entre Tiberius Gracchus et ses adversaires des grandes familles. Mais rappelez-vous, Tiberius lui-même est issu d'une grande famille, il est fils de consul, petit-fils de consul. Il appartient à une gens, à une tribu, à une grande famille romaine, qui est celle des Scipions. Oui, je vois, ce nom vous rappelle quelque chose. Scipion, Scipion l'Africain, celui qui avait écrasé les Carthaginois il y a quelques 70 ans de cela, en se rendant sur le territoire africain de Carthage, en ravageant la ville, après que Rome eût été à deux doigts de la catastrophe, à deux doigts d'être battue par Hannibal et Hamilcar, les chefs carthaginois. Les Scipions, c'est aussi le descendant direct de Scipion l'Africain, qui s'appelle Scipion Émilien. Et Scipion Émilien a une femme. Et tenez-vous bien, cette femme, Sempronia, c'est la sœur de Tiberius Gracchus. Dans cette grande famille aristocratique de laquelle est issu Tiberius, on sent déjà que deux tendances vont se faire jour. D'un côté, les réformateurs derrière Tiberius, de l'autre, les conservateurs derrière Scipion Émilien. Donc le drame n'est pas seulement un drame qui va diviser la cité républicaine romaine, mais c'est un drame qui va même diviser les familles, comme celle des Scipions. Mais n'anticipons pas, Tiberius vient de prendre ses fonctions de tribun. Il commence à mettre en place sa réforme, une réforme agraire simple. Dans la première version, il s'agit de donner aux plus pauvres un tout petit lopin de terre. À Rome, la mesure, c'était les jugères. Voilà. Et bien, on va donner 30 jugères à un pauvre qui n'aurait absolument rien. Et puis, il envisage qu'on reconstitue en quelque sorte une classe moyenne en donnant 500 jugères aux soldats qui seraient citoyens. Donc, comme ça, ils auraient un peu plus que le nécessaire pour vivre, évidemment. Tout cela le rend très, très populaire auprès des couches plébéienne de la ville. Et chez les sénateurs et chez les nobles, on voit le danger. On s'en prend directement à la fortune qu'ils ont pu accumuler en investissant dans les guerres. Parce que pour les sénateurs, les terres qu'ils ont prises dans la guerre publique, les terres qu'ils ont prises après les conquêtes, elles ne sont que la juste rémunération des risques qu'ils ont pris en finançant les guerres. Donc pour eux, tout est légitime. Donc vous voyez le conflit qui est en train de se nouer entre d'un côté Tiberius et de l'autre côté les sénateurs. L'opinion publique romaine est extrêmement divisée. Voici comment Appien, un auteur romain, décrivait la rupture au sein de la société dans son Histoire des guerres civiles romaines.
Ce fut ce dernier article de la loi qui excita principalement le mécontentement et l'animosité des riches. Aussi les voyait-on de toutes parts se réunir en particulier, se répandre en doléances, représenter aux citoyens pauvres qu'ils avaient arrosé leur propriété de leur propre sueur, qu'ils en avaient planté les arbres, construit les édifices. De tous les côtés, on n'entendait que plaintes de cette nature, que clameurs mêlées d'indignation. Les citoyens pauvres répondaient à toutes ces doléances que de leur ancienne aisance, ils étaient tombés dans une extrême misère.
Les sénateurs décident d'utiliser une stratégie institutionnelle pour bloquer Tiberius. En fait, il existe plusieurs tribuns de la plèbe, pratiquement une dizaine. Donc, ils en choisissent un qui sera leur homme et qui, comme les tribuns de la plèbe doivent prendre leurs décisions de manière collégiale, à chaque fois va mettre son veto et bloquer Tiberius. Cet homme s'appelle Octavius. Il est apparenté à une partie de l'aristocratie romaine et de fait, dès que Tiberius essaye d'avancer, il met son veto. Et donc, Tiberius est coincé. Que faire ? Comme tribun de la plèbe, il a la possibilité de convoquer une nouvelle assemblée. Et devant cette assemblée, il va plaider pour la défense de son projet de réforme agraire. Mais il va aller plus loin. Il va demander que l'assemblée retire le mandat qu'elle avait donné à Octavius comme tribun de la plèbe. Dit comme ça, ça a l'air parfaitement simple et légal. Sauf que, en principe, un tribun de la plèbe est inviolable et sacré. On ne peut pas, pendant la durée de son mandat, lui retirer ses pouvoirs. C'est donc une sorte de coup de force, une sorte de coup d'État que tente Tiberius Gracchus en faisant invalider le mandat d'Octavius par l'assemblée des comices tributes. Mais c'est ce qui se passe. L'assemblée est trop enthousiaste, trop désireuse de voir la réforme agraire aboutir et donc elle vote et destitue Octavius. La voie paraît ouverte pour Tiberius Gracchus. Il met en place un triumvirat chargé d'appliquer la réforme agraire. On y retrouve Appius Claudius, son beau-père, son tout jeune frère, Caius, et lui-même. Il commence à effectuer le travail de recensement des terres, de récupération pour préparer leur redistribution. Mais les sénateurs essayent d'empêcher, à coup de vote, de loi et de blocage, la réforme de s'effectuer. Donc, Tiberius n'a d'autre choix que d'essayer de bloquer le budget de l'ensemble des institutions. C'est ce qu'il fait. Il se rend au trésor de Saturne, il y fait mettre des scellés et il essaye d'empêcher donc que ce trésor ne puisse être utilisé par les sénateurs. En somme, Tiberius Gracchus fait un double coup d'État. D'abord, il bloque l'ensemble des finances des magistratures romaines. Et ensuite, il essaye de détourner l'utilisation d'un héritage qui relève des relations internationales, donc qui relève exclusivement en principe des prérogatives des sénateurs.
Dans quelques instants, découvrez la dernière partie de cet épisode consacré à Tiberius Gracchus dans la révolution sociale de la Rome antique. Restez avec nous sur Europe 1.
20h, 21h,
au cœur de l'histoire sur Europe 1.
Excellente soirée sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire de avec Fabrice d'Almeida. C'est la dernière partie du récit de Tiberius Gracchus, tout de suite sur Europe 1.
Pendant quelques mois donc, Tiberius est le principal personnage des institutions, si bien que les sénateurs ne se gênent pas pour mener une ardente propagande contre lui. Tiberius Gracchus est populiste. Tiberius Gracchus ne respecte pas les lois des ancêtres. Tiberius Gracchus enfreint les lois de Rome. Et cela est intolérable. De son côté, Tiberius Gracchus est face à une difficulté. Son année de mandat est passée extrêmement vite. Il a à peine pu commencer à mettre en œuvre sa réforme. Il lui faut davantage de temps pour la parachever. Il veut donc réunir une nouvelle fois les comices et leur demander un nouveau mandat pour l'année 132. Cette stratégie devrait fonctionner puisqu'il est majoritaire au sein des comices tributes. Mais c'est sans compter les capacités de mobilisation des sénateurs. Rendez-vous est pris pour une première réunion électorale, mais très vite, Tiberius s'aperçoit lors de cette rencontre que ses partisans sont en minorité. Il décide donc de repousser le vote au lendemain, le temps de mobiliser de nouveaux électeurs, car à Rome, le vote se joue toujours en un lieu, en un jour, dans la capitale. Après avoir obtenu que le vote soit repoussé, Tiberius se rend auprès de ses partisans. On dit que ce discours-là, il le fit presque en larmes, tant la tension nerveuse était extraordinaire, tant il craignait pour sa propre vie. Émus par le discours radical de leur chef, les partisans des Gracques se mobilisent. Et le lendemain, il y a foule aux comices tributes pour essayer de voter un nouveau mandat pour le tribun du peuple, Tiberius Gracchus. Et soudain, un groupe fait son apparition. Il est emmené par un autre membre de la famille des Scipions, Scipio Nasica. Scipio Nasica est le grand pontife. Écoutez comment Appien nous raconte son apparition.
Après avoir arrêté ce qu'ils jugèrent convenable, les sénateurs prirent le chemin du Capitole. Ils avaient à leur tête Cornelius, Scipio Nasica, grand pontife, qui criait à haute voix tout en marchant « Suivez-nous, citoyens qui voulez sauver la patrie !» En entrant dans le Capitole, Scipio Nasica se jeta sur les partisans de Gracchus, qui ne firent nulle résistance à cause de la vénération qu'inspirait un si grand personnage, et en même temps à cause que le Sénat était avec lui. Ils assommèrent les partisans de Gracchus, ils poursuivirent les fuyards et les jetèrent du haut en bas des précipices qui environnaient le Capitole. Plusieurs de ces malheureux périrent dans cette bataille. Gracchus lui-même, atteint dans l'enceinte sacrée, fut égorgé près de la porte, à côté de la statue des rois.
Commence à partir de là une véritable chasse aux sorcières. Les partisans de Tiberius Gracchus sont traqués. Plusieurs centaines d'entre eux y perdront la vie. D'autres sont interdits d'office, d'autres enfin doivent fuir et se réfugier ailleurs de l'autre côté de la Méditerranée parfois. Commence une nouvelle ère, marquée par la réaction. Et la réaction est menée par un homme qui ne nous est pas tout à fait inconnu. Il s'appelle Scipion Émilien. Et rappelez-vous, il est le mari de Sempronia, la sœur aînée de Tiberius Gracchus. La division avait donc été radicale au sein de l'aristocratie romaine, mais la présence de Sempronia, la présence de ses liens familiaux, explique sans doute que les réactionnaires aient décidé d'épargner la vie du plus jeune frère de Tiberius, Caius. Désormais, des réseaux existent souterrains, presque clandestins, pour essayer de limiter la contre-réforme à laquelle s'envoie précisément Scipion Émilien. C'est lui qui décide de faire une nouvelle loi pour abroger la réforme agraire que Tiberius Gracchus avait essayé de mener. En somme, à la fin de l'année 132, déjà, on peut dire que la révolution de Tiberius Gracchus s'est achevée, elle est tombée. Elle n'a pas réussi à réformer complètement Rome. C'est Cicéron, l'avocat et homme politique romain de la fin de la République, qui a écrit un jour que la mort de Tiberius Gracchus et déjà avant elle tout le déroulement de son tribunat divisèrent le peuple, jusqu'alors uni, en deux parties. En somme, à la mort de Tiberius Gracchus, a surgi une division que l'on croyait éteinte depuis très longtemps. On pensait qu'à Rome, ce qui importait, c'était le sacrifice national, la mobilisation pour la patrie. Mais à partir des Gracques, ce qui paraît flagrant, c'est que désormais deux partis s'opposent. Le parti des puissants, le parti des oligarques, qui pensent que, au fond, l'ensemble des Romains doivent le respect au Sénat et aux grandes familles pour une raison simple, ils leur doivent la vie et le pain. Et de l'autre côté, ceux qu'on appelle le parti populiste, ceux qui considèrent que la situation terrible faite aux citoyens les plus démunis qui s'accumulent dans Rome, qui constitueront bientôt 1 million d'habitants, cette situation-là nécessite une réforme ardente des institutions. Et c'est peut-être ce groupe qui, un jour, tiendra sa revanche avec le frère de Tiberius, Caius. C'est cette revanche que vous découvrirez dans le prochain épisode de Cœur de l'Histoire.
Voilà pour cette première partie du récit de Tiberius Gracchus. À suivre votre second épisode au cœur de l'histoire, 10 ans après la mort de Tiberius, c'est au tour de Caius, son frère, d'entrer sur la scène politique romaine. Connaîtra-t-il une fin aussi tragique que son frère ? Nous sommes au cœur de l'histoire avec Fabrice Dalméda qui revient dans un instant. A tout de suite sur Europe 1. Excellente soirée sur Europe 1. Jusqu'à 21h, Fabrice Dalméda nous parle des frères Gracques et de la République romaine. Caius réussira-t-il là où son frère assassiné a échoué ? Vous êtes au cœur de l'histoire sur Europe 1.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Je suis encore fidèle au rond-point par chez moi. Le discours du président, c'était pas suffisant. Nous, ce qu'on voudrait qu'il passe, c'est le référendum. Référendum d'initiative citoyenne. Changer le système et que ce soit vraiment le peuple qui décide de ce qui doit passer ou pas. Moi, ça fait des années que j'attends que le peuple commence à gronder. Et là, c'est vraiment le cas. Ah, il faut pas lâcher.
En regardant le mouvement des Gilets jaunes qui secoue la société française depuis maintenant plusieurs semaines, comment ne pas penser aux épisodes comparables de l'histoire et notamment à celui où Tiberius et Caius Gracchus avaient voulu réformer la République romaine. Dans le premier épisode, on a vu l'échec de Tiberius Gracchus et la façon dont il avait été assassiné. Mais son frère Caius va reprendre cet héritage. Va-t-il réussir ? Va-t-il parvenir à réformer la société romaine ? Eh bien, pour le savoir, je vous emmène au cœur de l'histoire. En 133 avant Jésus-Christ, Rome avait connu une de ses plus graves crises. Avec Tiberius Gracchus, c'est véritablement le gouvernement de Rome qui avait été scindé en deux avec d'un côté, donc, les partisans du Sénat et de l'autre, les partisans de la plèbe, ce petit peuple de Rome composé de soldats, d'agriculteurs tombés en déshérence, en déclassement, dirait-on aujourd'hui. Et pourtant, le bouillonnement intellectuel qu'a suscité Tiberius Gracchus ne s'est pas éteint malgré la répression qui l'a frappé. C'est son beau-frère, Scipion Émilien, qui s'est arrangé pour essayer de limiter les réformes qu'il avait voulu faire aboutir. Mais il est mort trop tôt, et n'a pu mettre en place des institutions radicalement réactionnaires comme il le souhaitait. De fait, un petit embryon de parti populaire s'est reconstitué. Mais pourra-t-il trouver un leader ? On en était là en 124, quand revient à Rome un tout jeune homme. Un jeune homme auréolé d'une certaine gloire familiale. Écoutez son nom. Il s'appelle Caius Sempronius Gracchus. Caius Gracchus est le petit frère de Tiberius, celui qui avait accepté de participer au triumvirat pour la réforme agraire de son frère. Et donc en 124, ce tout jeune homme revient de Sardaigne, où il a été magistrat, proquestor, dit-on. Il arrive à Rome pour se présenter à des élections. Vous avez deviné lesquelles ? Ce sont des élections au poste de tribun de la plèbe. Devant les citoyens réunis dans leur comice tributesse, dans cette grande assemblée de la plèbe, devant eux donc, il tient un discours. Il est relayé par une partie des responsables de chaque tribu et il parvient, mais avec difficulté, à se faire élire tribun de la plèbe. Il a présenté son programme politique qui est un peu l'enfant de celui de son frère, l'héritage de son frère. Caius, lui, C'est un orateur passionné, chaud, presque un comédien. Il apprécie d'ailleurs les mondanités et le luxe. Il n'est pas dans cette espèce de tenue militaire qu'avait Tiberius. Il se veut homme d'action et en même temps ne dédaigne pas une certaine forme de dilettantisme. Mais sous cette apparence bonhomme se cache en fait une volonté de faire, celle de venger la mort de son frère et l'écrasement du parti des populaires. Plutarque ne s'y trompe pas. Écoutez comment il reprend un des discours de Caius.
Sous vos yeux, les gens que vous savez ont assommé Tiberius à coups de bâton. Et en pleine ville, on a traîné ignominieusement son cadavre du haut du Capitole pour le jeter au fleuve. Ceux de ses amis, comprenez, mouraient sans jugement. Pourtant, c'est une tradition chez vous que si quelqu'un sous le coup d'une accusation capitale ne se rend pas à la citation, un huissier devant sa porte, au point du jour, le convoque à son de trompette et les juges ne portent pas sentence avant l'accomplissement de cette formalité. Vos aïeux étaient si circonspects et se tenaient sur leur garde en matière de jugement.
On l'aura compris, Caius fait référence à la justice, mais en réalité, il a aussi un désir de poursuivre sa vendetta. Quand on est romain, on est toujours un peu italien. Caius a analysé l'échec de son frère. Ce qui a manqué à Tiberius, c'est une stratégie d'ensemble. Il décide donc de mener plusieurs actions de front. D'une part, il va reprendre la réforme agraire, essayer de redistribuer des lopins de terre aux membres de la plèbe les plus pauvres et de donner une base territoriale aux autres citoyens. D'autre part, il se lance dans une stratégie de prise des principales institutions romaines. Ce doit être des partisans à lui qui doivent être élus à la fois au tribunat, pour ne pas qu'ils puissent se heurter à une opposition interne au sein de la même magistrature, et en même temps qui doivent être élus au consulat. Donc les plus hautes charges romaines doivent être tenues par des hommes de Caius. Et puis enfin, il s'attaque au dernier point. Il s'agit de briser la relation de clientélisme que certains citoyens de la plèbe entretiennent avec les grands patriciens. Pour cela, il faut pouvoir leur distribuer des richesses, leur distribuer de quoi s'alimenter, et de cette manière, il pourra jouir d'une immense majorité au sein de l'Assemblée de la plèbe.
Excellente soirée sur Europe 1. Jusqu'à 21h, Fabrice Dalméda nous relate l'histoire des fers Gracques. Caius parviendra-t-il à affaiblir le Sénat romain et déjouer les intrigues de ses adversaires? Nous sommes au cœur de l'histoire. A tout de suite sur Europe 1. Vous écoutez Europe 1. Fabrice Dalméda nous emmène au cœur de l'histoire de Caius Gracchus jusqu'à 21h.
Caius a donc un programme extrêmement moderne, qui suppose de renforcer les droits des citoyens romains par rapport aux magistrats. C'est ce qu'il va s'employer à faire, et voici comment Plutarque expose son discours dans les vies parallèles.
Après avoir secoué le peuple par de tels propos, car il avait une voix très forte et beaucoup de portée, il proposa deux lois, portant l'une que si le peuple avait ôté sa charge à quelques magistrats, on ne lui permettrait pas d'exercer une autre magistrature. L'autre que, si un magistrat bannissait un citoyen sans jugement, le peuple aurait à condamner cet abus de pouvoir. De ces lois, l'une dégradait directement Octavius, celui que Tiberius avait dépouillé du tribunat. Et sous le coup de l'autre, tombait Populus, car c'était lui qui, en sa qualité de préteur, avait banni les amis de Tiberius.
Le projet de Caius Gracchus était en fait plus sournois. Derrière la défense des droits des citoyens romains se cachait le projet d'arracher les tribunaux aux sénateurs pour les donner à une autre catégorie de citoyens, les membres de l'ordre équestre, c'est-à-dire d'une catégorie, disons, de grands bourgeois de la ville de Rome. Ce seraient eux, désormais, qui seraient dépositaires de la justice et le Sénat se retrouverait considérablement affaibli. Dans la même optique, Caius Gracchus pense qu'il faut redistribuer les terres nouvellement conquises. Il décide donc de fonder ce qu'on appelle des colonies, c'est-à-dire de nouvelles cités composées par des citoyens romains qui y seraient envoyés et qui en jouiraient de la terre. Deux colonies sont imaginées en Italie même, l'une à Capoue, l'autre à Tarente. Mais le projet le plus délicat consiste à créer une nouvelle colonie sur le sol même de la ville de Carthage. Carthage, souvenez-vous, c'est l'ennemi héréditaire des Romains. Il a fallu les trois guerres puniques pour que finalement, Rome finisse par l'emporter sur sa cité rivale. Et donc, au terme de la troisième guerre punique, le territoire de Carthage a été déclaré impropre, maudit par les prêtres romains, et même une partie du sol est censée avoir été salée de manière à ce que plus rien ne puisse y repousser. Ça, c'était pour le symbole. La réalité, sans doute, était beaucoup moins radicale. Et donc, conscient de cela, Caius Gracchus veut recréer, sur le site de Carthage, une colonie romaine qui sera vraisemblablement opulente et qui utilisera ses terres grasses du rivage méditerranéen. Fonder une telle colonie revient cependant à faire un sacrilège, une offense à la mémoire des soldats qui sont tombés pour la conquête de Carthage. Pour Caius, tout cela s'inscrit dans un plan d'ensemble. Il en profite pour faire construire de nouvelles routes, pour développer des greniers, pour stocker les denrées alimentaires dans l'ensemble de l'Italie. Et il veut aussi que ce projet de colonie permette de soulager la distribution de denrées alimentaires à la plèbe de Rome, ce qu'on appelle une loi frumentaire, pour alimenter les plus pauvres. En quelque sorte, c'était le revenu universel de l'époque. Permettre à tout le monde d'avoir de quoi manger, d'avoir de quoi vivre. Cette politique de Caius cherche aussi à renforcer le poste de tribun de la plèbe par rapport aux autres magistrats. Et donc, elle a des implications sur l'ensemble de ce qu'on appelle le cursus honorum, c'est-à-dire la carrière des aristocrates et la carrière de ceux qui appartenaient à l'ordre de la chevalerie, à l'ordre équestre. Donc, au fond, cette réforme touche toutes les classes sociales. En prétendant agir pour les plus pauvres, en réalité, Caius Gracchus remet en cause toute la hiérarchie sociale de Rome. Mais pourquoi le veut-il? Est-ce une simple vengeance? Sûrement pas. La motivation par rapport à Tiberius ne suffit pas à expliquer l'ampleur du programme. Est-ce le désir de réformer une république qui est en train de changer elle-même, qui est en train de devenir presque un empire? Ou est-ce au fond le désir de Caius Gracchus de soutenir la classe qui détient le plus de denrées financières, l'ordre équestre, par opposition à ceux qui avaient une simple fortune terrestre, les sénateurs, les aristocrates. Peut-être que toutes ces motivations se cumulent. En tous les cas, Caius mène grand train. Il vit de manière très opulente, au vu de tous, et cela va servir d'argument pour ses adversaires. Les sénateurs ont faim de laisser faire. En secret, ils préparent leur riposte. Comment discréditer Caius? Il faut quelqu'un qui aille plus loin que lui. Ils réussissent à trouver parmi les tribuns de la plèbe un certain Livius Drusus. Livius Drusus sera chargé d'être encore plus radical que Caius. Il va se servir des comices pour faire des propositions allant encore plus loin et discréditant Caius comme le soldat des riches, comme quelqu'un qui chercherait à devenir une sorte de roi dans cette Rome républicaine qui ne supporte pas le principat. Livius Drusus va aussi se charger de dénoncer le projet de colonie à Carthage comme étant une sorte de reniement du patriotisme romain. Tout cela contribue à réduire le rayonnement, l'aura dont jouissait Caius Gracchus, si bien que en 122, alors qu'il est à nouveau candidat pour être tribun de la plèbe, il est battu. Comme il est sans magistrature, il décide de partir pour Carthage, voir comment se déroule le début de l'installation de cette colonie qu'il a tant voulu. Mais lorsqu'il revient à Rome, coup sur coup, le Sénat annule deux réformes qu'il avait tenté de faire. La première, c'était donner le droit de cité aux Italiens, en quelque sorte transformer les autres Italiens en Romains. Eh bien, cela, le Sénat le refuse. Et puis, déjà, les sénateurs inscrivent à l'ordre du jour la loi sur la fondation de la colonie de Carthage pour essayer de l'annuler. Caius tente de s'opposer à ce vote en réunissant autour de lui quelques amis auprès du Capitole pour faire pression sur le Sénat. C'est à ce moment-là que se déroule un événement qui, en d'autres temps, aurait pu paraître anodin ou en tout cas pas si grave. Caius était en train d'haranguer ses partisans quand un consul s'était approché de lui avec ses licteurs. Les licteurs, ce sont des gardes chargés d'écarter la foule autour du consul. Or, l'un d'eux n'a pas hésité à poser le bras sur Caius en lui demandant d'épargner la République. Ce que voyant, un partisan de Caius s'est précipité sur le licteur et l'a poignardé. L'homme est mort. L'incident aurait pu sembler une simple querelle personnelle, mais les sénateurs vont monter cette histoire en épingle. S'en prendre à un licteur revient à attaquer l'un des plus hauts magistrats de Rome, un consul. C'est donc un crime de haute trahison. Le Sénat en profite sur le champ pour voter un senatus consult ultime, c'est-à-dire une loi qui permet à quiconque de tuer Caius, qui oblige même les citoyens romains à lui faire la guerre.
Excellente soirée sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire jusqu'à 21h avec Fabrice Dalméda. Restez avec nous pour la dernière partie de votre soirée. Un épisode consacré ce soir à Caius Gracchus et la révolution sociale dans la Rome antique. A tout de suite sur Europe 1. Vous écoutez Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire avec Fabrice Dalméda jusqu'à 21h. Très belle soirée à tous.
Caius a très bien compris ce qui se passe. Il tente une dernière riposte. 3000 de ses partisans se sont rassemblés sur l'Aventin, juste à la sortie de Rome. Certains sont armés, d'autres pas. Face à eux s'avance l'armée mobilisée par le Sénat. Évidemment, on devine l'issue de la bataille. Les partisans de Caius sont écrasés et il est contraint de prendre la fuite. La suite, c'est plus tard qu'il nous la raconte.
Dans sa fuite, Caius fut rejoint par ses ennemis, qui l'atteignirent près du pont de bois. Ses deux amis le forcèrent à prendre les devants. Eux-mêmes tinrent tête aux hommes lancés à sa poursuite. Et combattant devant le pont, ne laissèrent passer personne jusqu'au moment où eux-mêmes tombèrent morts. Avec Caius, fuyait un seul de ses esclaves, du nom de Philocrate. Il se réfugia dans un petit bois consacré aux furies, où il mourut. Philocrate l'ayant tué avant de s'égorger lui-même. Pourtant, à ce qu'affirment quelques-uns, tous deux furent pris vivants par les ennemis. Mais le serviteur étreignait si fortement son maître que nul ne put frapper Caius avant que Philocrate n'eût succombé à de nombreux coups. Il avait été dit que la tête de Caius serait payée son pesant d'or à celui qui la porterait à Opimius. On apporta donc à Opimius la tête de Caius au bout d'une pique.
Son corps, à l'instar de plusieurs milliers de ses partisans assassinés, est lui aussi jeté dans les eaux du Tibre, comme l'avait été une décennie auparavant le corps de Tiberius, son frère. La tête de Caius, elle, a été promenée dans Rome, au bout d'une pique, comme pour dire à tous les citoyens romains que personne ne pouvait se dresser face au Sénat. La République allait encore durer presque un siècle, mais on voyait bien déjà les ferments de division qui agitaient les Romains et sans doute la montée nécessaire d'un pouvoir autoritaire pour concilier leurs intérêts divergents. Depuis l'Antiquité, bien des auteurs ont été fascinés par les Gracques. Et plusieurs interprétations en ont été données. Il y a d'abord ceux qui pensent que les Gracques étaient sincères, des révolutionnaires, en quelque sorte ancêtres des grands mouvements que l'Europe a connus depuis le XVIIIe siècle, qui voulaient tout simplement faire que les plus pauvres des Romains puissent vivre dignement et qu'il y ait en quelque sorte une justice qui ne dépende pas de la fortune et du pouvoir. Et puis il y a ceux qui ont regardé les Gracques comme des oligarques rusés, habiles, cherchant à manipuler les masses, à être en quelque sorte des démagogues, capables d'emmener les citoyens romains dans la pente d'une révolution qui leur aurait donné les pleins pouvoirs. En quelque sorte, les Gracques auraient été les ancêtres des régimes autoritaires des sens communistes du XXe siècle. Évidemment, les comparaisons sont complètement absurdes. Les Gracques ne peuvent se comprendre que dans cette République romaine à ce moment précis, au moment où les guerres ont transformé la société et où l'équilibre social n'est pas réparti, au moment où l'on n'a pas encore installé la none, cette distribution gratuite de blé pour les citoyens romains qui permet à ceux qui n'ont rien de pouvoir continuer de vivre avec une relative dignité. Vu de nos jours, l'action des frères Gracques pourrait faire réagir dans deux directions.
D'abord, leur désir de promouvoir l'égalité a nécessité la mise en place d'une forme de pouvoir autoritaire. Et donc, on voit très bien le lien que l'on pourrait établir entre d'un côté du populisme et de l'autre de l'autoritarisme. Mais leur message va plus loin que cela. En réalité, ce qu'ont compris très tôt les Gracques, c'est que les vrais citoyens, pour pouvoir être indépendants et autonomes, ne peuvent pas être considérés simplement du point de vue de leurs droits. Ils doivent aussi être considérés du point de vue de leur situation sociale, économique et matérielle. Et c'est peut-être cette dernière leçon qui résonne le plus fortement aujourd'hui. Il n'y a donc pas de citoyenneté sans prospérité.
C'était Au cœur de l'histoire. Merci Fabrice Dalméda. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les émissions Au cœur de l'histoire en podcast sur europe1.fr et sur l'application Europe 1. Votre soirée se poursuit sur Europe 1 avec le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir, venu se confier au micro d'Isabelle Morizet en juin 2019, et l'essentiel de l'actualité avec Thibault Lambert. C'est dans moins de deux minutes. À tout de suite sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Présenté par Fabrice Dalméda.
Préparé par Adèle Salmon. Réalisé par Julien Tarot.
Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.
À bientôt pour un prochain épisode.